La médiathèque, voilà, on vous donnera. Parce que c'est bien qu'on. Nous, on n'a pas enregistré. On n'a pas eu le temps de s'occuper de tout ça. Et donc, si des gens nous les demandent, c'est bien, on mettra des liens vers vos sites éventuellement. Enfin bon, de toute façon, Jérôme Vincent d'ActuSF enregistre à peu près tout. Donc, voilà. Bon, je vais laisser les dernières personnes qui viennent pour cette table ronde sur la mythologie nordique s'installer. Et nous allons commencer. Voilà, donc c'est très difficile d'être l'organisateur d'une manifestation, de passer la serpillière et d'installer les éditeurs, et puis après de se retrouver à animer une table ronde. Donc j'espère que vous voudrez bien me pardonner mes hésitations, peut-être, voilà, aujourd'hui. Donc je voudrais vous présenter tout d'abord ces invités, mes invités, invités du festival. Le professeur Régis Boyer, qui a déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois à Bagneux dans le cadre de l'Université pour tous, que nous avons monté à la médiathèque et qui nous avait fait tout un cycle sur la mythologie nordique. Alors, faut-il le présenter ? Je n'en suis pas sûre, car tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses livres. On ne peut pas parler de mythologie nordique. Alors on verra après ces termes ensemble, hein. Nordique, de littérature scandinave, de traduction, etc. Il est absolument incontournable, Régis Boyer. Il a enseigné à la Sorbonne ses civilisations et ses littératures pendant un certain temps. Il a dirigé l'Institut d'études scandinaves, c'est comme ça, voilà. Il parle vieux norrois, et ça, moi, j'espère qu'il va nous parler vieux norrois, parce que c'est vraiment...
Je veux faire peur à personne.
Non, mais c'est vraiment... Moi, j'adore, voilà, c'est vraiment très beau. Et qui nous a fait l'honneur et le grand plaisir d'accepter cette invitation, malgré un emploi du temps international assez chargé, comme vous pouvez vous en douter. À mes côtés, l'écrivain, le conteur, et je dis le conteur parce que nous aurons à reparler de la mise en compte de la mythologie, Édouard Brazé, que nous connaissions pour ses travaux et ses livres sur la féerie, et qui, nous offre La malédiction de l'anneau, donc pour l'instant deux tomes de sortie. Alors, voilà, je vais vous faire un petit aveu, c'est-à-dire que moi... Je ne suis pas très fan de ce genre de livre au départ, c'est comme ça. Mais bon, j'allais animer cette table, Édouard est un ami, je lis quand même, il m'offre les bouquins que je demande, je lis. Eh bien franchement, d'ailleurs je lui ai téléphoné, hein. J'ai trouvé que, d'abord j'ai pris beaucoup de plaisir à lire « La malédiction de l'anneau », et j'ai trouvé que c'était tout à la fois bien écrit et bien construit. Après, bon, sur la réalité ou le rêve de l'écrivain, etc., la façon dont il va mettre ça, lui, comment il va retricoter ses mythèmes, ou comment il va retricoter ses parties d'histoire, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc... Le savant et le conteur, hein, me disait quelqu'un, je ne sais plus qui tout à l'heure, parce que c'était le titre de je ne sais plus quoi d'ailleurs, c'est très intéressant ce que je suis en train de vous raconter là. Et donc, alors je vais commencer par vous Régis, je vais commencer par vous parce que quand on lit La malédiction de l'anneau, quand on lit alors l'Edda de Snorri, l'Edda poétique, la Volupsa, les Scandinaves, les Vikings, les anciens Germains, les Norrois, tout ça est un petit peu confus pour nous tous, et j'aurais bien voulu, si vous en êtes d'accord, que le professeur que vous êtes nous remette tout ça en perspective historique et dans l'histoire de ces pays, que sont ces textes, à partir de quel moment ils apparaissent, voilà. Rapidement. C'est pas facile ce que je vous demande parce que c'est sûrement une année de cours, mais je sais que vous allez le faire parfaitement.
Oui, non, je veux pas faire trop le professeur, hein. J'aime pas trop ça, je suis en retraite d'ailleurs, donc c'est fini. Il y a un phénomène que les spécialistes, comme votre serviteur, ne pénètrent pas et qu'on appelle le miracle islandais. entre 874 et 930, les Islandais sont installés en Islande. Ce n'étaient pas des Scandinaves à proprement parler, c'était un mélange de Celtes et de Scandinaves. Et c'est important de savoir ça. Cette confluence de culture et d'origine donne toujours des résultats brillants, surtout si c'est dans des îles comme la Crète, comme la Corse, comme l'Irlande, etc. Ça marche pas ?
Si, mais on vous entend pas assez. Vous pouvez peut-être monter. C'est bon ? D'accord.
Alors, il se trouve que les Islandais, pour les raisons que je suis en train de suggérer vaguement, ont consigné par écrit, à partir du moment où ils ont disposé d'une écriture, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont convertis au christianisme, c'est-à-dire autour de 990, ils ont consigné par écrit, d'une part, tous les poèmes germaniques, anciens, germaniques au sens large. Les Scandinaves sont des Germains, comme vous le savez, c'est les Germains du Nord. Ça s'appelle Edda, comme a dit Marie-Charlotte. Alors il y a deux Edda, il y en a une qui est très importante et qui est constituée de poèmes, 38 poèmes, ça s'appelle Edda poétique. Tout ça existe en français maintenant, donc vous avez la chance. Et il y a un Islandais spécial, qui s'appelle Snorri Sturluson, puisqu'elle veut que je vous fasse du vieux norrois. C'était déjà des poèmes obscurs à l'époque où ils ont vu le jour, ils ont dû voir le jour à la fin du XIIe siècle. Il a compris qu'il fallait expliquer un peu ça, alors il a écrit l'Edda dite en prose, ou dite de Snorri, qui explique un petit peu et qui développe les mythes. Bon, dans la foulée, les Islandais se sont rendus spécialistes de la poésie skaldique. Alors je tiens à le dire, la poésie skaldique... Et à ce jour, 2010, la poésie la plus compliquée, la plus sophistiquée, la plus élaborée que jamais l'Occident ait conçue. C'est-à-dire, premier qui dit que les Vikings étaient des barbares est un homme mort. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas les Vikings proprement dit qui ont composé ça. Les Vikings n'ont pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on va raconter là. Bon, c'est la poésie skaldique. Et en troisième lieu, ils ont composé les sagas. Il y en a 400, elles se répartissent en 5 catégories différentes. Je parle avec aisance là maintenant parce que tout ça existe à des degrés divers en français. C'est-à-dire, si vous voulez vous initier à ces textes-là, vous n'avez que l'embarras du choix. C'est publié dans de bonnes maisons d'édition par des gens qui, en général, sont compétents tout de même. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix. Alors, voilà les textes. Moi, je suis un homme de texte. C'est mon métier. Je voudrais maintenant parler d'autre chose. Je voudrais dire donc, j'ai enseigné les langues, littérature et civilisation scandinave pendant 50 ans, 20 ans à l'étranger, dont Islande et la Suède, et puis 30 ans à la Sorbonne. J'ai été titulaire de cette chaire et fondateur de l'institut qu'évoquait Marie-Charlotte, à tout de suite. Nous autres scandinavistes, nous avons un métier qui est difficile, et même affligeant. Et je trouve qu'on devrait faire comme les employés du téléphone, on devrait se suicider tous, parce que... C'est-à-dire, même si vous vous adressez à un homme cultivé, à une femme aussi, allez, vous avez un double effort à faire. Vous avez bien sûr votre métier à faire, de vulgariser, divulguer, expliquer. Nous avons fait des études pour ça. Mais en même temps, et plus encore, alors j'évite de regarder M. Brazet, vous avez un effort au moins aussi considérable de démultification et de démystification. C'est-à-dire, c'est un gros travail que le travail de scandinaviste en français, un peu pareil d'ailleurs dans d'autres pays, notamment les pays méditerranéens comme l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal. Non, les Vikings n'avaient pas de cornes à leur casque. Non, les Vikings n'ont jamais bu de sang humain. Non, les Vikings n'étaient pas des guerriers invincibles et des héros comme on n'en fait plus. Non, Andersen n'écrivait pas de contes pour les enfants. Il se fâchait quand on lui disait ça. Non, Ibsen n'était pas un grand écrivain féministe. Non, Strindberg n'était pas susceptible d'entrer immédiatement dans un hôpital psychiatrique, etc., etc. Non, Ingmar Bergman, qui est le seul cinéaste scandinave que vous connaissiez un peu à part Lars von Trier, n'était pas un obsédé sexuel, Lars von Trier peut-être, hein, mais certainement pas Bergman, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez ce double effort à déployer tout de suite. Voilà ce que pense la science aujourd'hui, la science qui est en évolution toujours, et qui ne tient jamais une vérité pour définitivement acquise, vous savez ça. Et puis voilà ce qu'il ne faut vraiment pas penser. Nous autres, profs de fac, on sait plus ou moins. plutôt moins que plus. C'est tout de même. Où est l'erreur? Mais nous ne savons pas où est la vérité. Ça, c'est une erreur grossière. Bon, je voulais, c'est pour répondre à Marie-Charlotte, ça, tout ça, n'est-ce pas? Dans un premier temps, j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on discute un peu de ce que l'on appelle conte en français. Monsieur Brazet a publié en 2 volumes. Ça n'est sûrement pas un roman. Je ne sais pas comment il définit ça, on va lui faire dire. C'est plutôt un conte autour des poèmes héroïques de l'Edda, puisque vous savez ce que c'est maintenant, c'est-à-dire autour du personnage qui s'appelle Sigurdr Fáfnisbani. Siegfried, pour vous, n'est-ce pas?
Alors,
j'aimerais bien que M. Brazet présente un peu.
Voilà, on va lui demander. C'est parce que là, vous faites. C'est bien, parce que vous avancez bien, et puis vous prenez ma place aussi, donc c'était parfait. Alors, non, mais ce serait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire ça à vos filles. Merci beaucoup. Alors, Édouard Brazet, donc je me retourne vers vous, et pour que on va se dire dessus parce que je ne vais pas y arriver tout au long, hein, pour que tu puisses nous expliquer donc pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui a suscité en toi ce désir d'avoir à partir, à détricoter et à retricoter toutes ces éléments mythologiques sur les que tu nous proposes, et comment tu t'y es pris, voilà, est-ce que tu as commencé? On a l'impression que oui, parce qu'il y a une petite bibliographie dans ton livre, à te documenter. Voilà. Qu'est-ce qui a germé, à un moment donné, dans la tête du conteur-écrivain?
Alors, en fait, moi, je suis tombé amoureux de cette histoire, il y a une quarantaine d'années, à travers la musique de Richard Wagner. Donc, j'ai découvert cet univers avec des géants, avec des dieux, des héros, avec des dragons, à travers la tétralogie de Wagner, donc l'Anneau du Nibelung. Bon, je suis tombé amoureux de cette histoire. Je pensais à l'époque, parce que j'avais 17 ans, que c'était Wagner qui l'avait inventé. Et pendant des années, j'ai cru que c'était Wagner qui l'avait inventé. J'écoutais cette musique, je suis allé à Bayreuth, enfin bon, etc. Et puis, plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser aux mythologies, aux légendes, aux contes, j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'il y avait un fond légendaire et sans doute historique à ces histoires, à travers l'Edda héroïque, l'Edda en prose, l'Edda poétique, la chanson des Nibelungen, la saga des Welsung. Donc j'ai lu ces textes et j'y ai retrouvé, alors en partie, ce qui faisait la base des opéras, des textes de l'opéra de Wagner, et puis bien autre chose. Et j'ai découvert en fait une espèce de monde que j'ignorais, que j'ai découvert. Bon, je n'ai pas du tout de formation universitaire, en tout cas pas du tout dans ce secteur-là. Et j'ai trouvé une grande richesse. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, Wagner en a fait une adaptation en opéra, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'adaptation en livre, en roman? Et j'attendais, alors je vous le dis très franchement, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ces romans, car il s'agit bien de romans, mais j'attendais que cette version romancée apparaisse. Les années passaient et rien ne venait. Finalement, je me suis dit, ben, je vais peut-être le faire. Ça me semblait un petit peu une ambition un peu élevée par rapport à la capacité que je pensais avoir de novéliser en quelque sorte l'immensité de ces sagas. Mais enfin, je m'y suis lancé. Et alors, ma façon de m'y prendre, c'était de mettre à plat, en quelque sorte, les thèmes que j'ai bien voulu retenir de cette immensité, parce que sinon c'est tellement florissant que ça donnerait lieu à des livres et des livres, et en plus c'est assez complexe. Donc en fait, j'ai choisi certains éléments, pas forcément ceux que Wagner avait retenus. J'ai retenu en partie le puzzle, en quelque sorte, qu'avait fait Wagner. J'ai fait mon propre puzzle, j'ai rajouté des personnages, j'ai violé parfois la mythologie, c'est que je me suis, non pas par plaisir de me distinguer, mais parce qu'il me semblait, et ça je dois avoir eu raison ou tort, mais il me semblait que le conte, la légende derrière ça, voulait dire quelque chose aujourd'hui, et qu'il fallait parfois prendre des distances par rapport à justement ce qu'on en savait, d'autant plus que, à ma connaissance, ces histoires-là, au départ, elles ont toutes été de tradition orale, et que les scalds étaient justement des conteurs qui qui racontaient ces histoires avec des variantes comme tous les conteurs font, et que justement le fait que ces histoires ont été fixées et figées par l'écriture à un moment donné a en quelque sorte enfermé ces histoires dans une sorte de système, mais qu'elle reste libre, et que le conteur ou le romancier d'aujourd'hui a en quelque sorte la liberté d'une part, mais aussi peut-être le devoir, de reprendre ces histoires-là, de tenter de rester fidèle à l'esprit de la légende, mais en faisant une histoire qui puisse être lue aujourd'hui par des lecteurs d'aujourd'hui. Alors il y a en même temps une ambiguïté qui est liée à l'aspect fantasy. Ici nous sommes justement dans un festival du merveilleux, de la fantasy et de la science-fiction. Aujourd'hui, on nomme fantasy des formes littéraires qui sont en fait entre le fantastique, le merveilleux, l'Uchronie, enfin des choses assez diverses. Et pour moi, il s'agit, c'est d'une tentative d'écrire un roman de fantasy, non pas d'une façon entièrement libre, comme le font certains d'entre vous en tant qu'auteurs, mais en me référant à quelque chose qui existait déjà, en l'occurrence, cette mythologie, cette légende qui était fort mal connue en France. Donc, comme le dit Jacques Baudou dans son anthologie de la fantasy, il s'agit de ce qu'on appelle la myth fantasy, la fantasy mythologique, qui serait émergente aujourd'hui et qui aura en fait trois types d'approche. La première, c'est une novélisation directe de la mythologie, chose que je n'ai pas faite. Deuxièmement, c'est retenir certains éléments, d'en ajouter d'autres et de faire une version personnelle, ce que j'ai fait. Et le troisième courant serait de bâtir une mythologie originale à partir d'éléments, mais juste d'éléments très très lointains de mythologie, mais pour en faire une œuvre complètement originale. Et c'est ce qu'a fait Tolkien, par exemple, avec Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Pour moi, il s'agit donc bien d'un roman, mais d'un roman qui romance en quelque sorte un référent culturel sur lequel je n'ai absolument pas de compétences universitaires ni historiques, mais qui m'a servi justement à redonner l'envie aux lecteurs d'aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir ce légendaire qui sinon resterait peut-être réservé.
Alors ça, c'est quand même arrivé à toutes... Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui s'est passé à toutes les époques. C'est-à-dire qu'on a des éléments mythologiques et des poètes derrière ont repris ces mythologies à la façon d'Ovide, par exemple. Donc, vous vouliez évoquer cette question du conte, Régis Boyer, parce que je vous vois dubitatif.
Non, pas exactement. Je voudrais poser une pétition de principe. Un romancier a le droit d'écrire sur le sujet qu'il veut, avec deux corollaires. Le premier, c'est qu'il faut qu'il se documente réellement sur le sujet qu'il traite. On vient de parler de Tolkien. Tolkien savait le vieux norrois. Il a traduit deux ou trois sagas. Donc quand il écrit, comment c'est en français, Le Seigneur des Anneaux, il est documenté in vivo. Il sait de quoi il parle. Et la deuxième remarque que je veux faire, c'est que un romancier comme M. Brazet a tout à fait le droit, à mon avis, d'inventer ce qu'il veut autour d'un thème donné. Mais il faudrait que pour le lecteur, le principe de l'invention fût constamment conscient. Il a parlé de Wagner, je vais vous donner un exemple immédiat. Wagner est un génie, c'est un des grands musiciens romantiques que l'humanité possède. C'est un grand poète. Vous savez que c'est lui qui composait le texte de ses opéras. Et c'est même un grand architecte, puisque c'est lui qui a fait les plans de Bayreuth, si vous êtes déjà allé vous promener là-bas. Il s'est fondé pour écrire ses opéras, notamment la tétralogie. Oui, j'en parle de la tétralogie. Il s'est fondé sur la mythologie germanique qu'avait publié Grimm, pas celui des contes, l'autre, son frère, donc, d'une part. Et d'autre part, il s'est fondé sur des savants allemands comme Klemm, comme Schick, etc., du début du 19e siècle, qui traduisaient non pas sur les textes norrois qu'ils ne connaissaient pas, mais sur les traductions latines qui ont été faites au cours du 16e et 17e des textes norrois. Vous voyez, ça s'appelle entasser Pélion sur Ossa en grec, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la substance, le matériau, les sources sur lesquels Wagner a travaillé n'était pas recevable. C'est-à-dire que ce qu'il dit de Siegfried, ce qu'il dit des toutes les créatures qui passionnent M. Brazet, est faux. Et il faut avoir une modestie totale et une abnégation vraiment grande pour essayer d'aller voir aux sources. Je vais vous donner un exemple qui va vous convaincre tout de suite. Sigurdur Siegfried, Frau Frisbani, est incontestablement tenu par tous les spécialistes pour le héros des nations germaniques. À vrai dire, il y en a deux autres. Il y en a un qui s'appelle Helgi, et puis il y en a un autre qui s'appelle Völundur. Mais vous n'en avez rien à faire, je garde ça pour moi. Héros, c'est le grec héroï, ça veut dire modèle, exemple. Qu'est-ce que Sigurdur, j'espère que M. Brazé ne va pas sortir son mouchoir et qu'il ne va pas pleurer. Qu'est-ce que Sigurdur peut bien avoir d'exemplaire? Il a fait une, pas deux, choses. Il a tué le dragon Fafnir. Oh, il l'a tué, mes bien chers frères, d'une façon vraiment navrante. C'était un dragon maniaque qui allait boire tous les jours à heure fixe l'eau du Rhin, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Sigurdur? Il a creusé une fosse, il s'est mis dedans, il a attendu, et c'était aussi un très bon physiologiste, il a attendu que le dragon passe, et quand il a estimé qu'il était, que le dragon il en était à la hauteur du cœur, de bas en haut, il a asséné un grand coup d'épée, et par chance, il est tombé dans le cœur du dragon, qui est mort, qui a quand même eu le temps de réciter un poème de 112 strophes avant de mourir, dans lequel il prédit toute la destinée de Sigurdur. C'est tout ce que Sigurdur a fait d'héroïque dans sa vie. Il faut vraiment laisser de côté les Américains, enfin, Américains, c'est leur, faut leur pardonner, d'une part, et les auteurs de bandes dessinées, même remarque, n'est-ce pas? C'est la seule chose qu'il a fait d'héroïque. Et pourtant, et puis d'ailleurs, je peux vous dire, je serais très cruel envers M. Blavet.
Oh non.
Si vous saviez comment il est mort, Sigurdur, ce parangon du héros germanique. Nous avons deux versions. Dans la première, il est allé se promener avec ses deux beaux-frères dans une forêt, et il y en a un des deux qui s'appelle Hugni en vieux norrois, qui l'a tué par derrière, d'un coup de hache dans le dos. Vous vous rendez compte? Et dans l'autre version, c'est encore pire, et là, je ne sais pas si ma voix ne va pas chevrotter, il a été tué par un ennemi dans son lit. Dans son lit. Qu'est-ce que c'est que ce héros dont la seule prouesse consiste à avoir tué un dragon de bas en haut d'une façon assez lâche et qui est mort d'une façon aussi lamentable? Eh bien, c'est le héros incontestable, là je ne vois pas qui pourrait me contredire, de ceux qui connaissent leur texte, hein, sur cette question-là. Eh bien, il est quand même héroïque. Alors, je vais dire ça à M. Brazet parce que ça va le faire phosphorer. Il va écrire un tome 3.
Ben oui, bien sûr, le tome 3.
Il l'a terminé il y a deux jours.
Il l'a terminé, bien sûr.
Alors, voilà un 4.
Et dans le tome 3, vous verrez, quand vous lirez ce que vous faites le plaisir de le lire, que Siegfried est vraiment un anti-héros.
Et oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il a d'héroïque au sens objectif,
bien,
c'est-à-dire
oui,
pas américain et pas bébé. Ce qu'il a d'héroïque, c'est que pour des histoires d'amour de femmes, dont il est un peu question ici, pas tellement Brynhildur, mais surtout Gudrun, c'est ça. Et puis aussi cette reine, comme toutes les belles-mères, n'est-ce pas, je n'exclus pas la mienne, qui était vraiment une femme d'un tempérament impossible. Elle a fait avaler un filtre à Sigurdur pour qu'il se trompe de femme. Et cet imbécile-là, il s'est trompé, n'est-ce pas, il a épousé celle qu'il ne fallait pas épouser. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'est lié de fraternité sacrée avec ses deux beaux-frères, un qui s'appelle Gunnar et l'autre qui s'appelle Högni. Fraternité sacrée, c'était un rite magique. Je ne vous en dis pas avec ça, mais on est bien documenté là-dessus. Il y a même une saga qui s'appelle la saga des frères jurés qui vous décrit le rite en question. Alors, si vous êtes lié avec quelqu'un de fraternité sacrée, rien, absolument rien, ne peut vous empêcher de rester fidèle à ce serment, ou alors vous êtes un lâche, vous ne valez rien, vous êtes ce que les Islandais appellent un pauvre type, disons, n'est-ce pas? Et les femmes ont fait en sorte que ces deux beaux-frères trahissent, il n'y a pas d'autre mot, Sigurdur Fafnir, et comme il avait donné sa parole, il n'a pas pu se déjuger. Il a donc accepté cette mort que je viens de décrire un peu brutalement pour rester fidèle à la parole donnée. D'où vous déduisez une chose importante, c'est que chez les anciens germains, le respect de la parole donnée était absolument fondamental. C'était la valeur cruciale. On ne pouvait pas manquer à sa parole donnée, sinon on se déshumanisait. On n'était plus digne d'être considéré comme un homme. Alors voilà ce qu'il a d'héroïque, parce qu'il est exemplaire, parce qu'il a assumé personnellement, au prix de sa vie, la valeur fondamentale de cet univers-là. Là, il est héroïque. Tout le reste, c'est de la fabulation. Tout le reste. Rien n'est vrai. Tout est symbolique. Tout est mythique. Tout ce que vous voudrez. Mais historiquement, voilà. Alors, est-ce que je continue ou quoi?
On va peut-être laisser répondre Edouard.
Parce que quand le Siegfried, évidemment, le personnage central de l'histoire, et moi, ce qui me gênait, mais déjà, ça me gênait lorsque j'écoutais les opéras de Wagner, j'étais gêné par ce personnage qui était considéré comme le héros, alors que pour moi, il n'avait justement rien d'héroïque, puisqu'il délaisse Brunhild pour s'acoquiner avec Gudrun, avec l'artifice un peu facile du filtre d'amour. Et on sait depuis Tristan et Iseut que aucun filtre magique ne peut être efficace s'il n'y a pas au départ une attirance amoureuse. Donc, par définition, Siegfried était quelqu'un qui était justement assez vis-à-vis des femmes, qui était assez hésitant entre l'une et l'autre. Et il y a un aspect qui revient, me semble-t-il, qui est présent dans les sagas, mais ça, Régis Boyer me le confirma ou pas, c'est que Brunhild apparaît un peu à Siegfried comme un dragon. Alors, il a vaincu le dragon, certes, mais d'une part, le dragon s'est laissé vaincre, puisque dans le fameux texte que vous avez cité tout à l'heure, dragon moribond enseigne en quelque sorte Siegfried, on s'aperçoit que le dragon s'est laissé vaincre. Et en revanche, Siegfried, effectivement, n'est pas un héros. Alors, ça m'a intéressé justement d'avoir un héros qui n'en soit pas un, qui soit fait d'ombre et de lumière. Alors, j'ai rajouté des éléments qui sont romanesques, qui ne sont pas inventés, pour expliquer la raison pour laquelle justement il est fait d'ombre et de lumière, pourquoi il n'a pas uniquement l'inspiration divine odinesque en lui, mais d'autres éléments beaucoup plus nombreux. Mais en tout cas, là, pour un troisième tome, encore une fois que j'ai terminé il y a deux jours, donc il sortira en avril. Eh bien, il finit mal, puisque à cause de son aspect parjure, parce que malgré lui, justement, en voulant conserver sa parole, puisqu'il a donné sa parole déjà à Brunhild, il a été parjure en donnant sa parole à Grimhild, Gudrun, et également en donnant sa parole au frère, à Gunnar, et en fait, il est parjure à tous. Et c'est pourquoi, lorsqu'effectivement il est attaqué dans le dos, il finit dans les enfers, non pas dans le Valhalla où sont promis les héros morts au combat bravement, mais il finit dans les enfers de Hel. Et là, il doit vivre son éternité d'après la mort dans le pire des endroits de Hel, le dernier des sept, des neuf cercles qui se trouvent au septentrion de ces enfers souterrains de Hel, dans un fleuve qui est réservé justement aux lâches et aux parjures. Donc évidemment, c'est une bien vilaine fin pour un héros.
Je suis certain que c'est un grand romancier, parce que c'est incroyable ce qu'il peut tirer de documents qui sont vraiment adventices. Hein. Je ne sais pas où il a appris qu'il y avait neuf mondes dans Hel. Bon, non, je voudrais dire tout autre chose. Je voudrais parler du dragon, parce que visiblement, ça excite M. Brazé. Il est possible que Sigurdur ait eu un antécédent historique. C'est pas sûr, hein. Mais il y a un roi Sigebert chez les francs ripuaires qui a existé, réellement. Il y a aussi une espèce de héros qui est devenu saint en Suisse et qui a existé aussi. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a eu un roi burgonde qui s'appelait Siegfried. Les Burgondes, comme vous le savez, c'est une peuplade scandinave. Peut-être ils viennent d'un petit îlot qui existe aujourd'hui qui s'appelle Bornholm, au large de la ville de Husad en Suède. Peut-être ils viennent d'un lieu en Norvège qui s'appelle Borgund. En tout cas, c'est lors des grandes invasions, les Burgondes sont descendus jusqu'à la Bourgogne, à laquelle ils ont donné son nom. Bourgogne doit son nom aux Burgondes. Alors, tout ça se trouve à côté du Rhin. Le Rhin joue un rôle important, très important, dans tout le cycle de Sigurdur. Et Fafnir, le dragon, expressément, ça c'est dit dans nos textes, était chargé de veiller sur le Rhin. La preuve, c'est qu'il y allait boire, et c'est en y allant boire qu'il est mort. Alors, il est dit dans deux ou trois textes que Sigurdur était le défenseur de l'or du Rhin. Rheingold, au Deutsch. Qu'est-ce que c'est que cette or du Rhin? On s'est beaucoup interrogé là-dessus. Je pense, mais je ne suis pas tout seul, hein, que c'est une image du soleil, l'or du Rhin. Ou plutôt de la soleil. Parce que dans toutes les langues germaniques, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres langues aussi, les langues slaves, on ne dit pas le soleil. On dit la soleil. C'est pour son tome 4. Hein, ça, on
dit Sonne der Mond.
On dit la soleil, c'est-à-dire toutes nos cultures, et pas seulement les indo-européennes, ont sans doute postulé l'existence comme toute première divinité d'une grande déesse, ou d'une déesse mère. On y revient. Peut-être vous avez lu les travaux de la belte Gimbutas, Maria Gimbutas, qui a écrit un livre remarquable sur la déesse mère. Oui, il semble que ce soit les indo-européens, mais là je m'égare peut-être, si je ne suis pas clair, vous me le dites, hein, qui est apporté le culte de l'homme, du mâle. Il semble que l'humanité, initialement, sa divinité, c'était une femme, c'était une divinité féminine, la grande déesse. Et le soleil, qui se dit donc la soleil, Chou, dans toutes ces langues-là, est probablement un des avatars, il faudrait dire, de cette grande divinité féminine fondamentale. Alors maintenant, si vous admettez ce principe, et je crois qu'il est assez difficile de ne pas l'admettre, parce qu'il y a, je viens de dire, avatar, le mot qui convient, ce serait hypostase, c'est-à-dire la même sous d'autres noms. Il y a Freya, il y a Frigg, il y a Skadi dans le Nord. Bon, je vous ennuie pas avec ça. Il semble que le roi, je parle du roi après, si vous me le permettez, si vous n'êtes pas tous endormis, il semble que Sigurdur, qui est le roi, dont on ne sait trop quelle tribu ou peuplade germanique, le roi, c'était le grand prêtre, hein, dans toutes ces religions-là, pas seulement dans la nôtre. Le roi, il n'est pas roi pour des raisons juridiques, il n'est surtout pas roi pour des raisons militaires, ça c'est très important, ça c'est du nazisme et c'est du Dumézil. Il est roi pour assurer la prospérité, fertilité de ses sujets, et surtout il manifeste ces prérogatives-là par l'intermédiaire du culte. Il est le grand prêtre sacrificateur de toutes ces religions-là. Là-dessus, je ne vois pas comment on pourrait contredire ça si on connaît les sources. Alors, j'espère que vous arrivez à suivre mes propos confus. Sigurdur, c'est le roi, donc le prêtre sacrificateur, qui, en tant que tel, ipso facto, célèbre la grande déesse, en l'occurrence représentée par la soleil. Et la soleil, ce serait ça, l'or du Rhin. Et ça expliquerait la collusion entre Fafnir, le dragon, et la soleil. Et ça expliquerait aussi pourquoi ce roi qui veut devenir le détenteur des pouvoirs solaires tue le dragon. C'est pas vraiment un meurtre, c'est une mutation. C'est, je devrais dire même, si je peux jargonner, une transmutation. Il s'approprie les vertus, au sens latin de vertu, virtus, force. Il s'approprie les forces inhérentes à cette divinité première féminine-là. Alors, c'est pour M. Brazet. Ça explique le rôle vraiment étonnant que les femmes jouent dans le cycle de Sigurdur. Il y a au moins trois femmes, voire quatre, c'est-à-dire Brynhildur, Grimhildur, Gudrun, Sigurdrifa, qui toutes les quatre ont des pouvoirs magiques. Ça devrait vous retenir. Toutes les quatre connaissent par exemple les runes qui sont tenues à cette époque-là. C'est faux, mais c'est comme ça. Pour des signes magiques. Toutes les quatre manipulent des filtres. Toutes les quatre sont capables de créer des métamorphoses, etc. etc. On est dans un univers qui est bien caractérisé, là. Ça explique pourquoi ces quatre femmes-là jouent un rôle tellement déterminant. On n'a pas d'autres textes germaniques de cette époque où les femmes jouent un rôle aussi déterminant.
Je suis un petit peu surpris, mon cher Régis Boyer, par le fait que vous m'invitez à écrire un tome 4, chose que je ferai peut-être mais dans 10 ou 20 ans, en me conseillant d'y inclure des éléments qui sont sur lesquels je suis tout à fait d'accord, bien évidemment, mais que j'ai déjà inclus dans mes trois premiers tomes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de Siegfried, dans les trois tomes, les femmes ont effectivement un rôle prééminent, c'est-à-dire que même si l'action est parfois, notamment l'action guerrière, est menée par les hommes, ce sont toujours les femmes qui sont soit les causes de ces actions, soit les éléments moteurs, notamment le rôle des déesses. Frigg, qui est la déesse des liens du mariage, des serments, qui est l'épouse.
Non, ça c'est une erreur, ça.
C'est une petite déesse. Romanesque.
Non, mais ça c'est du mauvais snorri, tout ça. Elle s'appelle Vaur, celle-là. V-A-L-O-N-R.
On donne plusieurs épouses à Odin, dont effectivement celui que vous parlez, je ne vous reprendrai pas cet accent plus
longtemps. Il a une quantité d'épouses.
On lui donne aussi Idun, Freya, Frigg, etc. Donc, en tout cas, dans la version que j'ai choisie, et qui reprend effectivement celle de Wagner, que vous n'avez pas l'air de porter dans votre cœur, et bien c'est Frigg qui est donc l'épouse un peu comme Hera par rapport à Zeus, si vous voulez. Et c'est elle qui, en fait, contraint le dieu qui, normalement, est le dieu des dieux, donc le dieu tout-puissant, mais en fait, il n'est pas tout-puissant, comme d'ailleurs aucun des dieux d'Asgard ne sont tout-puissants, parce que chaque fois qu'ils prennent une décision, si cette décision est mauvaise, et Odin prend souvent des décisions mauvaises, ils sont, en fait, enchaînés à leur propre décision, leur propre liberté, en quelque sorte. Ce qui fait que, paradoxalement, leur extrême liberté, je dirais, de démiurge davantage que de dieu, les contraint à être responsables de toutes les actions, toutes les décisions qu'ils prennent, ce qui fait que peu à peu, ils n'ont plus aucun pouvoir, ce qui est le cas de Odin. Frigg, en revanche, eh bien, lui intime souvent l'ordre, par exemple, de sacrifier sa propre descendance humaine, alors que Odin ne le désire pas, mais il est obligé de le faire, parce que justement, c'est la conséquence de ses propres actes. Et à la fin, ce qui m'a intéressé, du début jusqu'à la fin, mais je dis la fin parce qu'évidemment j'en sors.
Ne donne pas la fin quand même.
Bah si, parce qu'on la connaît tous. Voilà. Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer un monde, une société, une civilisation fondée sur une croyance en des dieux qui, premièrement, ne sont pas immortels, puisque dès le départ, la grande prophétesse d'origine et les Nords ont prédit leur fin, le fameux crépuscule des dieux, le Ragnarok. Donc, ces dieux vont mourir, ils le savent, et non seulement cela, mais les hommes qui sont eux mortels, comme nous sommes tous, eh bien ils ont cette possibilité en quelque sorte de rédemption qui est présente à la fin de la mythologie, puisqu'à la fin de l'écroulement des dieux et d'Asgard, eh bien il y a une nouvelle terre qui sort, et l'un des rares dieux, c'est Balder, qui est le dieu bon, qui est l'un des fils d'Odin, qui revient sur terre. Mais tous les autres, Odin, Frigg, Thor, en fait tous les dieux de cette imagerie, en fait, ont disparu. Donc ça m'a intéressé, d'une part, de traiter d'une cosmogonie dans laquelle les dieux vont mourir, et le savent, donc un côté tragique, mais qui n'est plus humain, qui est divin, et d'autre part, de traiter le rôle de Brunhilde, qui est une valkyrie, donc elle appartient à ce monde des dieux, mais elle fait le choix de vivre comme une mortelle, de devenir une humaine, et elle trouve qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant d'être chez les hommes, parce qu'il y a encore du fait de cette peur de mourir, enfin cette peur de mourir, elles n'ont pas peur de mourir, mais du fait de ce savoir de la mortalité, il y a un panache, il y a un héroïsme, alors qui n'est pas forcément un héroïsme militaire, qui est tout simplement le fait de regarder son destin en face et de se plier à son propre destin, qui est propre aux hommes et qui n'est plus le cas chez les dieux. Les dieux se sont enfermés dans une sorte, on va dire, d'aristocratie divine, qui est propre, qui est, je dirais, c'est un peu l'ancien régime juste avant la Révolution française, en quelque sorte. Ils vont être tous décapités par les géants, les créatures de feu de Muspel, par les géants de Jotunheim, etc. Et malgré tout, ils restent sur leur position un petit peu supérieure, d'où ils vont tomber. Et Odin, là j'ai rajouté un motif qui n'est plus un motif mythologique, qui est un motif légendaire, un motif de la chasse fantastique. C'est-à-dire que Odin, lorsqu'il est exilé de son propre univers d'Asgard, il devient le chef d'une armée de spectres, de fantômes, dont il est le premier. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, il n'est plus que l'ombre d'Odin. Donc les dieux ont déjà été décapités, et en fait, il est là, il erre dans ces nuages noirs que l'on voit justement au crépuscule, et c'est une chasse d'Odin qui passe comme ça. Et Odin n'est plus que l'ombre d'une divinité qui a disparu. Et je termine sur cette dégringolade complète des croyances au dieu d'Asgard. Et comme on le sait, enfin, me semble-t-il historiquement, je ne vais pas trop m'avancer sur le terrain historique, mais les peuplades dites barbares qui venaient de l'Est de l'Europe, y compris les Vikings plus tard, ont très facilement été christianisés. Donc ils ont très facilement renié leur propre dieu, qui d'ailleurs était déjà mort, pour adopter cette croyance au dieu unique. Et donc je termine par cette espèce, mais juste un clin d'œil en quelque sorte, cette mort des dieux, des anciens dieux, là pour faire apparaître la croyance en un dieu unique, qui à ce moment-là fédère dans cette nouvelle terre l'ensemble des mondes de Midgard.
Alors, je vais vous laisser répondre, Régis Boyer. C'est bien parce qu'en fait, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai vu que vous preniez des notes. Nous terminerons d'ailleurs là-dessus. J'en suis désolée, mais c'était absolument passionnant. Et voilà, on n'a pas vu le temps passer. Je crois qu'on me dit qu'il est 16h20. Et l'autre est à quelle heure? Je ne sais même plus. Je ne connais même plus le programme. Après, c'est à quelle heure ici? 16h30. On a encore un petit moment. 16h30. Oui, Philippe, oui, bon, ça va. Régis.
Alors, je veux dire deux choses. D'abord, j'ai dit expressément, en commençant, que j'admirais et respectais le talent de romancier de M. Brazet, et que ce n'est pas sur ce plan-là que je le prends. Il se trouve que ce romancier-là se fonde sur une réalité pseudo-mythologique, pseudo-historique, qu'il faut essayer de remettre en perspective si on ne veut pas délirer. Je voudrais faire remarquer deux choses. La mythologie germanique ancienne est très impure et très récente. Très impure et très récente. Si vous la comparez à la grecque, ou si vous la comparez à la latine, non, la grecque, c'est mieux, ou bien au méditerranéen, sumer, assur, etc., elle n'a pas ce monolithisme, cette solidité-là, parce qu'elle a subi... Les Germains ont toujours été, c'est dur, ont toujours été extrêmement perméables aux influences venues de l'extérieur. En fait, ce que ne voit pas M. Brazet, c'est que Odin est un parvenu. Odin. D'ailleurs, ce n'est pas un dieu, c'est simplement l'expression de la fureur. Odin, c'est l'allemand Wut. C'est la fureur, furor en latin, qui peut s'emparer de vous dans des circonstances magiques, sexuelles, guerrières, héroïques, etc., et qui fait que vous dépassez vos capacités. Mais il a dit une chose qui est intéressante, les dieux sont mortels, sauf un, auquel il n'a pas pris garde, qui s'appelle Tyr, T-Y-R. Son nom veut dire dieu. Il n'en est pratiquement pas question dans nos sources. Tyr, c'est le sanskrit diaos, c'est le hittite di, c'est le grec Zeus, c'est le latin diu, de Jupiter, c'est le celtique di, d2i, c'est le latin classique deus, c'est notre mot dieu. C'est un dieu qui s'appelle dieu, tout simplement. Lui, il échappe au Ragnarök, lui, il échappe à cette espèce d'insertion de la temporalité dans l'histoire de la mythologie. On n'en parle pas. Il n'existe que pour un mythe, mais là, je n'ai pas le temps, mais un mythe fondamental vraiment pour la société des Germains. Alors, je voudrais signaler ça, c'est qu'il n'y a pas à s'arrêter sur les nombreuses, très nombreuses, divinités ou créatures surnaturelles qui hantent cet univers germanique ancien, parce que, ou bien elles sont dues à des influences que je viens de dire, les Germains étaient très perméables aux influences grecques, latines, ils ont été christianisés tous autant qu'ils étaient autour de l'an 1000, ils étaient très, très perméable aux influences chrétiennes. Monsieur Brazet a très bien fait remarquer que tous ces dieux-là sont périssables. C'est-à-dire, ce n'est pas des vrais dieux. Un dieu périssable, ce n'est pas un vrai dieu. Et de fait, ils sont périssables. C'est un des enseignements, relisez Saint-Augustin, ou à la rigueur Saint-Paul, c'est un des enseignements chrétiens. Les dieux païens ne durent pas, tout simplement. Bon, sauf tir. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que on va revenir à Sigurdur rapidement, Marie-Charlotte, ne vous fâchez pas contre moi.
Oh, mais je ne vous fâche pas contre vous.
On va revenir à Sigurdur. Il incarne, ai-je dit, sous un angle assez clair, la destinée du héros. On est tout à fait fondé à penser que le dieu non nommé expressis verbis, mais vraiment très vivant. Le dieu majeur des anciens germains, c'est le destin. Le vieux norrois, mesdames et messieurs, possède 19 mots pour dire destin. 19. Ça vous laisse froid. Vous allez réfléchir, à part vous, pour voir combien de mots en français on a qui traduisent l'idée de destin. Je vous réponds pour tout de suite, on a 5. 5 mots. 19 contre 5. Une langue, je crois beaucoup moi à ce type d'analyse, qui dispose d'une richesse lexicale si poussée pour impliquer une notion, cela signifie que la notion en question est fondamentale. Et de fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi Sigurdr est-il le parangon du héros ? Parce qu'il est l'expression carrée du destin. Alors là, je vais descendre dans mes sagas, si vous voulez. Le héros de saga doit suivre une sorte de démarche, et c'est ça une saga, c'est le récit de cette évolution-là, en trois temps. Dans un premier temps, il doit essayer de voir quel est son destin, pourquoi il a été créé. Alors, il y a quantité d'adjuvants qui l'aident donc à découvrir quelle est la configuration de son destin. C'est le premier temps. Le deuxième temps, il accepte ce destin. On n'a pas d'exemple de héros de saga ou de héros mythologiques qui n'acceptent pas son destin. Nous existons pour rien, nous sommes de trop, etc. Non, ça n'existe pas. Le suicide est inconnu dans cet univers-là, par exemple. C'est le deuxième temps. Et troisième temps, ah bon, je suis fait pour ceci, j'ai tel et tel talent, tel et tel type d'épreuve m'attend. Eh bien, j'assume. C'est le troisième temps. Un, découvrir. Deux, s'accepter. Trois, assumer. Et c'est exactement ce qu'incarne Sigurdr et ses équivalents, ses homologues, n'est-ce pas ? Dans un premier temps, il y a eu les prédictions du dragon Fafnir, sur lesquelles on a insisté tout à l'heure, pour lui expliquer, voilà, ce que ce sera, ton destin. On trouve ça dans les sagas aussi. Dans un deuxième temps, il n'a pas protesté, il ne s'est pas révolté, il n'a pas donné de l'action, mais dans un troisième temps, il a accepté son destin, il a marché vers sa mort, volontairement, lucidement, je dirais. C'est une très belle Weltanschauung, comme on dit en allemand, c'est une vision du monde, une conception du monde. Je vous la recommande à titre thérapeutique, mesdames et messieurs, n'est-ce pas ? Ça peut peut-être vous aider, je ne sais trop jamais. Alors voilà, oui, c'est bien d'écrire des livres sur Sigurdr et sur tous les dieux et les mythes de cette mythologie-là, mais en respectant l'esprit, c'est tout ce que je voulais dire.
Écoutez, vous avez, je suis désolée, vous êtes, je le mets entre guillemets, bavards tous les deux, mais c'était passionnant et on vous écouterait encore des heures.
Simplement pour terminer, c'est que l'esprit justement du mythe, l'esprit de la légende, l'esprit de la saga, l'histoire qui se raconte, c'est justement ce qui m'a poussé en tant que romancier à prendre distance justement avec ce que l'on connaît de ces mythes qui sont très anciens et qui ont été écrits, rédigés il y a plusieurs siècles et qui ne sont plus tellement lisibles aujourd'hui dans leur état. Donc justement, c'est bien pour rester fidèle à l'esprit et non à la lettre que je me suis écarté quelque peu de la réalité historique de la légende.
Bon, ben, je ne sais pas si j'ai réussi à réconcilier le savant et le poète, mais de toute façon, il n'était pas fâché. Ce que je peux vous dire, c'est que Régis Boyer va dédicacer là, immédiatement dans l'espace des Terres Enchantées son remarquable ouvrage sur les Vikings, qui est une somme qui est sortie chez Robert Laffont, c'est ça, les Vikings, voilà. Et Édouard Brazé va dédicacer les deux premiers volumes de La Malédiction de l'Anneau. Donc, ils viennent nous dire qu'il avait terminé le troisième. Une autre saga en perspective ou un petit peu de repos avant de repartir ?
Un petit peu de repos, oui.
Et vous, Régis Boyer, en ce moment, c'est Kierkegaard ?
Oui.
Que je dois très mal prononcer en plus, c'est ça ?
Kierkegaard.
Ah oui. Voilà, en traduction. Merci à tous les deux. Et puis, donc, si vous voulez des dédicaces ou les livres de Régis Boyer et d'Edouard Brazé, je vous invite à nous suivre dans l'espace des derniers chapitres.